Saint-Pierre d'Alcantara, traité de l'oraison et de la méditation, chapitre 2. Première série de méditations pour chaque jour de la semaine, jeudi. Méditation sur le jugement dernier. En ce jour, vous penserez au jugement dernier, afin que cette considération réveille en vous ces deux sentiments si importants qui doivent se trouver en tout fidèle chrétien. Je veux dire, la crainte de Dieu et l'horreur du péché. Considérez d'abord combien sera terrible ce jour auquel s'examineront les causes de tous les enfants d'Adam. Se termineront les procès de nos vies et se prononcera la sentence définitive qui recevra son exécution dans l'éternité. Ce jour embrassera en lui seul tous les jours et tous les siècles. En ce jour, Dieu répandra la colère et la fureur provoquées par les péchés de tous les siècles. Imaginez-vous donc avec quelle impétuosité s'élancera ce grand fleuve de l'indignation divine, recevant autant d'affluents de colère et d'indignation qu'il y aura de péchés commis, puis le commencement du monde. En second lieu, considérez les signes épouvantables qui précéderont ce jour. Car comme le dit le Sauveur, avant que ce jour vienne, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, enfin, dans toutes les créatures du ciel et de la terre, parce que toutes sentiront leur fin avant qu'elle arrive. Elles se troubleront et commenceront à trembler avant qu'elle tombe. Quant aux hommes, ajoute le Sauveur, ils sécheront de crainte. Ils sentiront une défaillance mortelle en entendant les effroyables mugissements de la mer, en voyant les grandes vagues qu'elle soulèvera et les tourmentes dont elle sera agitée, pressentant, par ces signes si effrayants, les grandes calamités et les grandes misères qui menacent le monde. Ainsi, on les verra frappés de stupeur, épouvantés, le visage pâle et défiguré, mort en quelque sorte avant de mourir, et condamné avant le jugement, mesurant les périls sur leur propre terreur, et chacun tellement occupé du péril qui le menace, qu'il ne fera point attention à celui des autres. Un père ne songera point à son fils, ni un fils à son père. Nul ne pourra être de quelque secours pour un autre, parce que nul ne se suffira à lui-même. En troisième lieu, représentez-vous ce déluge universel de feu qui précédera la venue du juge. Et entendez le son effroyable de cette trompette de l'archange qui appellera toutes les générations du monde afin qu'elles s'assemblent en un même lieu et qu'elles se trouvent présentes au jugement. Considérez surtout la majesté terrible avec laquelle le juge doit venir. Considérez ensuite combien rigoureux sera le compte qui sera demandé à chacun dans ce jugement. Véritablement, dit Job, je sais que l'homme, mis en regard de Dieu, ne peut être justifié, et que s'il veut disputer avec lui, sur 1000 accusations, à peine pourra-t-il se justifier sur une. Job chapitre 9. Que se passera-t-il donc alors dans l'âme de chacun des méchants, quand Dieu entrera avec lui dans cet examen, et que dans le fond de sa conscience, il lui dira « Viens ici, homme mauvais. Qu'as-tu vu en moi pour me mépriser de la sorte et pour passer dans le camp de mon ennemi ? Je te créai à mon image et à ma ressemblance. Je te donnai la lumière de la foi. Je te fis chrétien. Je te rachetais de mon propre sang. Pour toi, je jeûnais. Je me fatiguais dans les voyages. Je veillais. Je vécus dans les travaux et les douleurs. Je suais des gouttes de sang. Pour toi, j'endurais persécution, coups de fouet, blasphème, moquerie, soufflé. Affront, tourment. Enfin, la croix. Témoin, cette croix et ces clous qui paraissent à tes yeux. Témoin, ces plaies des pieds et des mains qui sont restées dans mon corps. Témoin, le ciel et la terre devant lesquels j'endurais ces tourments. Eh bien, qu'as-tu fait de cette âme que j'achetais au prix de mon sang? Au service de qui as-tu employé ce qui me coûta si cher? Ô génération insensée et adultère! Pourquoi as-tu mieux aimé servir ton ennemi avec angoisse que moi, ton Créateur et ton Rédempteur, avec joie? Je vous ai appelé tant de fois, et vous ne m'avez pas répondu. J'ai frappé à vos portes, et vous ne vous êtes point éveillé. J'ai étendu mes mains sur la croix, et vous ne les avez point regardées. Vous avez méprisé tous mes conseils, toutes mes promesses et toutes mes menaces. Parlez donc maintenant, ange bienheureux, soyez juge entre moi et ma vigne. Qu'ai-je dû faire pour elle que je n'ai fait? Que pourront répondre à cela les méchants, ceux qui se sont moqués des choses divines, ceux qui ont tourné en ridicule la vertu, ceux qui ont méprisé la simplicité, ceux qui ont préféré les lois du monde à celles de Dieu, ceux qui ont été sourds à toutes les voix, insensibles à toutes les inspirations, rebelles à tous les commandements, ingrats et endurcis à tous les châtiments et à tous les bienfaits. Que répondront ceux qui ont vécu comme s'ils croyaient qu'il n'y avait point de Dieu et qui n'ont connu d'autres lois que leur intérêt? Que deviendrez-vous, dit Isaïe, à tous ces contempteurs de Dieu au jour de la visite et de la calamité qui vous viendra de loin? À qui demanderez-vous secours? Et de quoi vous servira l'abondance de vos richesses? Isaïe chapitre 10. Enfin, après tout cela, considérez la terrible sentence que le juge fulminera contre les méchants, et cette terrible parole qui fera trembler les oreilles de quiconque l'entendra. Ses lèvres, dit Isaïe, sont pleines d'indignation, et sa langue est comme un feu qui dévore. Isaïe chapitre 30. Y eut-il jamais un feu qui embrase autant que ses paroles? Éloignez-vous de moi, maudit. Allez au feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Matthieu chapitre 25. Quelle source pour nous de sentiments et de réflexions que chaque parole de cette sentence, cet éloignement, cette malédiction, ce feu, cette compagnie, et par-dessus tout, cette éternité.